Allô, salut, c'est Gilbert de Neuilly-Plaisance. Voilà, j'étais en train d'éplucher des carottes, là. Et ces carottes viennent de la voisine en face, qui a 99 ans, qui fait toujours son potager. Et bon, voilà. Et puis, ma femme l'aide pour le potager. Moi, je l'aide pour tout ce qu'il a à bricoler chez elle, les fuites d'eau, etc. En échange, on a des légumes toute l'année. Elle est inscrite pour la Sodexo par la mairie, pour la bouffe, mais ça va pour le chat. Puis moi, je lui fais à manger, quand je fais à manger pour nous, quoi, ses légumes. Le voisin d'à côté, lui, il m'a aidé pour mes chantiers chez moi, tout ce qu'il y avait à faire. Et moi, je m'occupe des petits-enfants pour les devoirs, parce que je suis retraite d'enseignant. En face, je lui ai fait sa salle de bain, et puis lui, il me donne du champagne, parce qu'il a une combine, etc. Ah oui, les carottes, je les ai râpées avec une moulinex qu'on a récupérée, qui date des années 50, et qui marche toujours très bien, ou des années 60, etc. Une vie de quartier, ça serait intéressant, presque une émission, parce que c'est plein comme ça. Et ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui votent Sarkozy, hein, et qui sont pas du tout dans ce système-là. Mais qui comprennent pas, quoi. Enfin, c'est pas grave. C'est pas un problème, ça. Voilà. Ils connaissent aucun, connaît Mermet, enfin, elle. Bon, voilà. Et je trouvais ça intéressant. Cette vie-là, de toute façon, ça me botte bien, moi. En banlieue parisienne, hein, dans le 9-3 même. En pavillon, évidemment. Mais enfin, bon. Voilà. Salut!
Alors, il y a une nouvelle incroyable, incroyable, incroyable. Une deuxième usine d'enrichissement d'uranium en Iran vient d'être découverte. C'est fou, hein, c'est complètement fou. Une deuxième usine d'enrichissement d'uranium en Iran. Aïe, 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 aïe. Mais que font les services secrets du monde entier? Non, faut arrêter de plaisanter. Évidemment, les services secrets américains et autres savaient parfaitement qu'il y avait une deuxième usine d'enrichissement d'uranium en Iran. Et pourquoi elle est annoncée au moment de la conclusion du G20? Tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait satisfait de ce G20. Le G20 qui est un G2, hein, faut pas l'oublier, c'est quand même une rencontre Chine-États-Unis. Et on nous sort le dernier jour cette histoire d'enrichissement d'uranium en Iran. Bah oui, parce que sinon on nous aurait raconté quoi? On est en train de régulariser le capitalisme, de le moraliser. On est en train de limiter les bonus des traders. Non, rien. D'abord, les traders n'ont pas de rapport avec la crise. Et puis tout ça, c'est du cinéma, voilà. Échec de ce G20, donc on nous invente quelque chose. Oui, je sais, je suis pour la théorie du complot permanent, je suis vraiment un mauvais coucheur. Mais j'y crois. Salut.
Bonjour Daniel Mermet, c'est un fidèle auditeur de là-bas, si je suis... qui t'appelle? Parce que je suis outré par une situation quand même qui se passe ici en France, dans notre pays. Un Malien, Aboubakri Tania, est mort dans un commissariat, un procureur de Nanterre qui classe l'affaire sans suite, ça c'est inadmissible. Et tout le monde sait qu'il est mort de torture et de violence dans un commissariat de police ici en France au XXIe siècle. J'aimerais bien qu'on parle de cette histoire-là parce que c'est des choses qui deviennent mais intolérables et inadmissibles ici en France. Et je compte sur vous parce que je sais que vous êtes pour la justice. Et bon, là, je suis très en colère et je vous remercie, à très bientôt. Et bon courage, le combat continue.
Oui, alors franchement, je suis d'accord avec tout, hein, avec tout ce qui se dit dans cette émission magnifique. Mais juste, Daniel, si en début d'émission, tu pouvais arrêter de te moquer du Berry, ce serait sympa. Parce que nous aussi, on fait de la résistance. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà, Xavier de Bourges. Salut. Et il faut que les Français se bougent le cul quand même.
Oh, le Berry, mais c'est pas nous qui nous moquons du Berry. Il y a une publicité qui circule sur France Inter, je sais pas si les Berrichons en sont très flattés, hein. Enfin, c'est à voir en tout cas. Merci, chers AMG, pour tous ces messages que vous avez laissés sur la boîte vocale de là-bas, si j'y suis au cours de ce week-end. À noter sur là-bas.org, là-bas.org, la version intégrale de l'entretien avec Frédéric Lordon. Vous avez été très nombreux à vous intéresser, à réécouter ces deux émissions de mercredi et de jeudi. Donc là, sur là-bas.org, vous avez la version intégrale. Et puis également, toujours sur là-bas.org, on a voulu vous proposez un ensemble de messages qu'on a reçus, des messages aussi bien sur le mail que dans la boîte vocale, parce que cette émission du 8 septembre a déclenché une tempête de réactions et de commentaires comme rarement au cours des 20 années de la basse. J'y suis évidemment, comme la plupart des médias, on reçoit chaque jour notre petit lot de messages racistes ou haineux et anonymes comme il se doit. Mais cette fois, il s'agissait à l'évidence d'auditeurs tout à fait modérés, pondérés, fidèles à France Inter, familiers de la basse J'y suis et qui souvent, en l'occurrence, se sont lâchés. Et depuis des années, on sait toute la puissance de ce sujet, en l'occurrence la burqa, mais auparavant c'était le voile, ce sujet pour diviser profondément le pays, à commencer par la gauche. Là-bas est une émission quotidienne, ça ne vous a pas échappé, et on tourne très vite la page. Et parfois on la tourne un peu trop vite, alors on a voulu sans commentaires plus nombreux, vous proposez donc cet ensemble de messages reçus sur le répondeur et de l'émission et par mail. Tous les points de vue, vous le verrez, vous l'entendrez, se sont exprimés dans le langage propre à chacun, comme d'habitude. Et indéniablement, certains de ces messages sont maculés d'une islamophobie rampante ou assumée, consciente ou pire, inconsciente. Et si l'on veut déjouer ce racisme acceptable, eh bien cela suppose tout d'abord de l'identifier et d'en identifier les causes. Donc rendez-vous sur là-bas.org. Alors aujourd'hui, on va retrouver Yvette ou l'amour aveugle. Yvette ou l'amour aveugle, pourquoi donc ? Et pourquoi donc ? Eh bien parce que 1989-2009, vous le savez, là-bas, ou vous l'ignorez, mais vous êtes en train de l'apprendre, là-bas, si j'y suis, fête son 20e anniversaire. Cette émission dure depuis 20 ans, figurez-vous, et ce n'est qu'un début. Alors, évidemment, c'est une occasion d'aller fouiller dans le grenier de là-bas, si j'y suis, 4400 émissions. Et évidemment, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, bien sûr, il y a les grands moments, les morceaux de bravoure, les événements inoubliables, mais c'est un peu comme la pomme de Newton. La pomme de Newton, il y a le moment où elle tombe, et ça, c'est un événement, mais il y a aussi le moment où elle mûrit, et c'est aussi un événement. Entre les deux événements, il y a simplement une affaire de vitesse. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on, en principe, on pense oublier. Et puis, eh ben non, c'est inoubliable. Et Yvette, d'amour aveugle, c'est... J'ai pas oublié. Je n'ai pas du tout oublié cette personne qu'on va retrouver aujourd'hui. C'était il y a 17 ans. L'une des raisons... Il y a beaucoup de raisons, j'espère que vous allez les découvrir, pourquoi cette femme est inoubliable. Elle avait 73 ans à l'époque, donc elle a 100 ans aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Peut-être est-elle encore vivante, ce que je souhaite, et peut-être nous écoute-t-elle, ce que je souhaite. Mais aveugle, Yvette. Et elle avait une chose tout à fait étonnante, qui m'avait beaucoup touché, et que je n'ai pas du tout oublié. C'est pour... dire au revoir, pour se souvenir du visage des gens qu'elle rencontrait, eh bien, elle avait une façon de poser ses mains, très délicatement, ses mains et ses doigts, sur votre visage, de façon à en garder l'empreinte et la mémoire. Et ce geste-là, au moment où nous nous sommes quittés, donc il y a 17 ans, m'a frappé. Et j'ai jamais oublié ce moment-là. Et je n'ai pas oublié non plus cet après-midi que j'avais passé chez elle avec son petit-fils dans la maison de Toulouse. Il va sans dire que si jamais elle s'écoute, on ne sait jamais, pourquoi pas. Et si jamais vous avez entendu parler d'elle, si vous la connaissiez, si vous la connaissez, et elle et son petit-fils, ce sera évidemment avec le plus grand plaisir que nous aurions, j'aimerais avoir des nouvelles d'elle. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors voilà, j'arrive à la poste, où je suis allée poster un petit recommandé, et les bras m'en tombent. Je m'étais habituée aux cartes postales, aux crayons de couleur, aux cartes de la France, ou les lettres de la faveur en sous-main, enfin bon, tous ces trucs qui déjà me renversent. Alors là, maintenant, figure-toi qu'il y a un petit présentoir avec des magnifiques bijoux fantaisie. Voilà. Nos postiers vendent des bijoux. C'est du grand n'importe quoi. Le 3 octobre, allez voter. Ça va peut-être servir à pas grand-chose, mais au moins vous aurez dit que vous n'êtes pas d'accord que nos postiers se transforment en épiciers. C'est n'importe quoi. Voilà, mon petit coup de gueule du samedi matin. Bonne journée à tous.
Salut à tous les AMG, salut Daniel Mermet et ton équipe. Voilà, je suis togolais et je voulais partager avec vous une situation dramatique, c'est-à-dire 45 ans de dictature dans un petit pays de 5 millions d'âmes et d'habitants. Qui sont donc esclaves et prisonniers de cette dictature france-africaine, aujourd'hui relayée par Monsieur Bolloré, notre milliardaire français, et tout le Sarkoland, car il va y avoir des élections présidentielles en avril prochain, et bien sûr ces élections vont déjà être gagnées par Faure Yacimbe, le fils du dictateur, le général Yacimbe Yadema, nous voulons à tout prix changer la donne et espérer qu'avec le cœur et avec la communication et votre relais, chers AMG, on puisse faire en sorte que la démocratie puisse voir le jour en avril prochain 2010, pour la première fois de son histoire depuis 1962, l'accession à la démocratie de ce petit pays, dont le président a été assassiné par le fameux dictateur, soutenu bien sûr par l'équipe Focard du général de Gaulle, en son temps. Aujourd'hui, le relais des dictatures et des dictateurs s'appelle Monsieur Nicolas Sarkozy et Monsieur Bolloré, entre autres personnes.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Bravo pour l'émission de vendredi sur la malbouffe, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, ça nous permet d'annoncer le prochain rendez-vous du repère de Saint-Péray, qui aura pour thème justement l'agriculture de la production à la consommation. Donc ça tombe super bien. C'est lundi 5 octobre, à partir de 20h, toujours à l'hôtel Badet. Pour tous les AMG de l'Ardèche et de la Drôme, venez nombreux. On aura des acteurs locaux, des vendeurs, des producteurs, et je compte sur vous, les consommateurs, pour venir débattre avec nous. À lundi 5 octobre, à l'hôtel Badet. C'était Cyril d'Ardèche, à bientôt, et encore bravo.
J'ai entendu votre émission sur les AMAP, c'était très très intéressant. Je voulais aussi vous parler d'un atelier jardin. Un atelier jardin dont je fais partie, qui se situe 6 place Jean Jaurès, à Montreuil-sous-Bois, dans le 9300. C'est un atelier jardin où les animateurs et animatrices reçoivent les personnes justement qui ont besoin parfois d'un petit soutien psychologique, qui sont dans des difficultés financières ou morales ou assez psychologiques. Et donc nous faisons un certain travail, les gens viennent là, donnent un petit coup de main. Nous cultivons bien sûr bio, complètement bio, nous faisons du compost pour enrichir la terre. Donc chacun donne un petit coup de main. Et à la fin de l'après-midi, on se partage les légumes. C'est tout à fait bon. Les tomates, par exemple, des tomates cultivées biologiquement comme ça, dans un jardin, c'est 100 000 fois meilleur que les tomates des grandes surfaces. Ça n'a même rien à voir. Donc c'est le mardi après-midi et le jeudi après-midi, toutes les semaines, de 14h30 à 17h30, au 6 place Jean Jaurès à Montreuil.
Bonjour Daniel, c'est Manu. Donc ça fait environ plus de 10 ans que je vous connais maintenant et que j'écoute régulièrement vos émissions. Juste un petit mot pour parler de la grève dans le milieu agricole, dans le milieu laitier. Donc je trouvais un petit peu dommage que vous n'ayez toujours pas fait d'émission sur ce problème. C'est une grève relativement originale, qui prend beaucoup d'ampleur, qui est historique et qui risque de faire changer des choses au niveau européen. Donc c'est une grève antilibérale qui risque de porter ses fruits. Et donc, Il n'y a pas que les ouvriers. Les ouvriers, c'est important. Mais je pense que de mettre des micros dans une manif ouvrière, c'est bien. Mais de venir voir aussi dans le monde agricole ce qui se passe. Et juste pour finir, ne pas oublier que le monde agricole, ce n'est pas que José Bové. Voilà, merci, au revoir.
Salut les AMG, c'est pour annoncer que la réunion des amis de là-bas, si j'y suis, de Briouze, dans l'Orne, se tiendra comme tous les derniers mercredis du mois au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, mercredi 30 à 17-18h. Cherchez le canard enchaîné, c'était Claude, salut à tous.
Un jour sur deux, je vois les couleurs. Je vois le rouge, par exemple.
Aujourd'hui, vous voyez le rouge ?
Non, aujourd'hui, je vois tout blanc. Mais alors, je vois blanc, s'il s'appelle blanc. Je vois quand même les sources lumineuses plus lumineuses. Et tout le reste, je le vois blanc, uniformément blanc.
C'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Elle s'appelle Yvette. Elle adore la poésie. Elle adore dire la poésie. Elle a 73 ans, Yvette. On est à Toulouse. C'est l'après-midi. Il y a un peu de soleil sur la Garonne. Yvette a perdu la vue il y a 3 ans. Aveugle, non-voyante, comme vous voulez. Et elle élève, seule, son arrière-petit-fils, Gilles, depuis 4 ans et demi. Et il a 4 ans et demi. C'est une histoire d'amour absolument fabuleuse. On dirait un roman, et c'est pas un roman. C'est une histoire très simple. Yvette, la prunelle des yeux, qui s'occupe uniquement de son arrière-petit-fils, Gilles.
Je veux que ça devienne un petit garçon merveilleux. Je veux qu'il ne soit pas comme la plupart de ces gars qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont rien et qui peuvent plus vivre parce qu'ils n'ont plus de garde-barrière, qui n'ont plus de frontières, qui n'ont plus de garde-fous, qui n'ont plus rien qui les soutienne. Je veux qu'ils soient soutenus, qu'ils sentent que... Et qu'ils soient soutenus par une espèce de filet qui serait une tendresse extrême qui l'empêcherait de faire ce que les autres font, c'est-à-dire d'être un individu pas bien. Je voudrais qu'ils deviennent comme ça. Dans la vie, on a du pain et du chocolat à manger. Mmh. Alors, on a une ration de pain, une ration de chocolat. Si on mange tout le chocolat avant, on sait toujours ça de prix. Alors lui, il mange son chocolat plus tard, on verra bien ce qu'il
fait. Il mange le pain blanc en premier.
Le chocolat, moi, je trouve, j'aime mieux le chocolat quand même.
Oui.
Ouais, et... Il est très heureux, il chante tout le temps, il rit tout le temps, sauf ce matin avec les cigarettes russes. Et voilà, il est arrivé ici un 29 août 1987, pour quelques mois.
87, mais il était tout petit. Quel âge tu as, Gilles, dis-moi. Quel âge tu as?
Je sais pas.
Si, tu le sais. 4 ans et 5 mois depuis ce matin.
Ah, oui.
4 ans et 5 mois. Alors, il devait rester que quelques mois. Et puis, il est resté plusieurs années. J'espère qu'il restera encore plus longtemps.
Un jour, elle m'a téléphoné pour parler, je ne sais plus quoi, du racisme, de la guerre. Et j'ai été frappé par cette voix, par la voix de cette femme, une voix étonnante d'ancienne petite fille. Et j'ai voulu aller la voir, je suis descendu à Toulouse, j'ai passé tout un après-midi avec elle, et elle m'a raconté son histoire. En entrant chez elle, c'est extraordinaire, on entre dans la chambre, c'est un grand appartement, mais on entre dans la chambre d'un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des jouets absolument partout. Et je lui ai dit, mais en fait, vous habitez, c'est vous qui habitez chez votre arrière-petit-fils. Vous avez été élevés ensemble tous les deux?
Tous les deux, on a été élevés ensemble. On s'est élevés chacun. Lui m'a élevé, moi je l'ai élevé. C'est-à-dire on est à peu près au même niveau. Non, quand on est dans l'enseignement, on a toujours un esprit qui... Je sais pas, il me semble que c'est une bénédiction du ciel d'avoir été dans l'enseignement. Parce qu'on garde une joie de vivre, on garde beaucoup de... Je dirais presque de naïveté, sincèrement. Vous voyez ? On croit en tout le monde, on a confiance. Et puis, quelquefois, bon, ça foire un peu, mais enfin, on s'en remet, quoi. Mmh. Mais je crois que ceux qui ont été dans l'enseignement sont vraiment privilégiés sur le plan mental, quoi.
C'est étonnant ce que fait votre petit-fils, arrière-petit-fils.
Il fait des dessins, voyez, ouais. Et de tout temps, alors maintenant, il écrit des lettres.
Sur ses mains?
Sur ses mains. Alors, il s'écrit des mots. Alors, l'auriculaire, c'est son préféré. Non, celui-là, en ce moment, bon, ça dépend. Il se fait des lettres, il se fait des dessins, il se fait de tout un tas de choses. Il a une imagination débordante. On se raconte des histoires, tous les deux. Et on embellit, chacun fait son petit couplet. Voilà.
Alors vous avez donc passé votre vie, en fait, dans une classe avec des enfants, quoi.
Eh oui, j'ai passé ma vie avec des enfants et je vous assure qu'il n'y a pas de métier plus beau.
Oui, puisqu'elle a été maîtresse.
Oui, elle a été maîtresse toute sa vie. Yvette a été maîtresse. Et maintenant... J'allais dire, elle est la maîtresse de Gilles, son arrière-petit-fils. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est un couple très étonnant. Gilles est, pensez-y, étant donné que son arrière-grand-mère est non-voyante, est aveugle, il a une fonction auprès d'elle. C'est-à-dire que l'utilité des deux personnages se fait pas dans un seul sens, il se fait dans les deux sens. Si vous êtes arrière-grand-mère, ça veut dire que vous avez été d'abord mère, ça veut dire que vous avez eu un mari.
J'ai eu un mari.
Est-ce que vous parlez d'abord de votre sacerdoce, de votre apostolat?
Oui.
Il y a quand même eu.
Mon ami, si j'étais restée mariée avec lui, ça aurait été mon martyr. Il y aurait le sacerdoce, l'apostolat et le martyr. J'ai arrêté le martyr à temps. Oui. Non, mais il était très gentil, mais c'était le plus casse-pied des hommes. Bon, d'abord, il était adjudant, alors... Bon, je ne veux pas dire du mal, mais enfin, tout le monde dit les adjudants, c'est les adjudants. Et voilà. Oui, j'étais très gentil, mais très maniaque. Je l'appelais Je sais tout. Et puis, quand il y a eu le film de Blanche-Neige, c'était grincheux. C'était vraiment comment pourrais-je dire, il était sensationnel sur le plan du mal, si vous voulez. Mais c'est à peu près tout. Bon, au début, c'est sensationnel, mais à la longue, hein, on se dit c'est bien beau, mais il y a autre chose quand même. J'aime pas trop les gens bêtes. Ça m'énerve. Les gens bêtes.
Il n'y a pas de gens méchants, d'après vous. Pour vous, il n'y a pas de gens méchants.
Non, parce qu'ils peuvent devenir gentils. Quand Gilles me dit, bon, on va tuer les méchants, je lui dis non, parce qu'il fait pas problème, etc. Il veut tuer les méchants. Je lui dis, mais et après ? Si tu les tues, ils ne pourront pas redevenir gentils. Mais il y a toujours une ressource dans l'être humain. Ceux qui sont méchants, ils ont eu des raisons. Je ne sais pas si quelqu'un les avait pris dans leurs bras, si quelqu'un les avait aimés, si quelqu'un les avait aidés, peut-être qu'ils n'auraient pas été méchants.
Vous êtes croyante, Yvette ?
J'ai mon truc à moi. Moi, j'adore... tout ce que je ne vois pas. Mais je ne veux pas dire que je ne vois pas avec mes yeux, quoi. de ce que personne ne voit. Je suis croyante. Quand il m'arrive un bonheur, je dis merci mon Dieu. Mais quand il m'arrive un malheur, je dis pas au bon Dieu, bah zut, hein, t'aurais pu faire gaffe. Non, non, jamais. Il se réveille la nuit dans sa chambre, il est dans son lit. Et puis j'entends « Je t'aime ». Bon, ça veut dire qu'il faut que je vienne et que je l'emmène dans mon grand lit de la chambre des jouets pour qu'on se raconte des histoires. Voilà.
Qu'est-ce que vous lui racontez ?
Tous les contes, puis des histoires qu'on invente. Il y a par exemple la bibliothèque de la chambre des jouets. Pour lui, elle se transforme en tout. Alors, elle se transforme en animal, elle se transforme en géant, elle se transforme en cyclope, parce que on s'est raconté les histoires d'Ulysse. Alors, ce que j'aime, c'est quand je lui ai raconté Ulysse et les prétendants, je lui ai raconté l'histoire des flèches et l'arc, il adore les arcs. Et quand il a eu donc envoyé une flèche à chaque prétendant, Gilles me dit, j'espère qu'il est allé rechercher ses flèches. J'ai trouvé qu'il avait bien les pieds sur terre.
Imaginez un oiseau très frêle, et très costaud. Et bien, elle ressemble à ça, Yvette. Elle a des grandes lunettes, elle vous regarde droit dans les yeux, mais elle ne vous voit pas. Et là, on imagine tous les problèmes que ça peut poser. Une dame qui voit rien avec un petit enfant. Et par exemple, elle m'a raconté comment trouver une boîte de médicaments dans l'armoire à pharmacie. Et bien, elle lui a appris ses lettres. Et alors, le petit, très petit, le plus petit possible, le plus tôt possible, était capable de dire ses lettres. Alors il disait voilà, il disait d'accord, ben ça c'est la boîte d'Aspo, tu me passes la boîte d'Aspo.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Tu laveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.
Bon, tu
tu peux en prendre une.
Mais sers-toi, toi.
Tu peux te
non, mais on attend le thé. Mais tu peux aller, toi. Tu peux
te
servir.
Tu vas montrer à Florence où sont les bols. J'ai des tasses, j'ai des bols, mais on va prendre des bols, hein, c'est plus amusant. J'en ai de toutes les qualités. Tu vas lui montrer dans l'élément du côté droit. Hein. Vous avez trouvé tout ce qu'il faut ? Bon, alors, vous avez plein de bols. Il va vous montrer les cuillères, il va vous montrer les bols, il va vous montrer le sucre.
C'est drôle ce que vous dites, Yvette. Vous dites, oui, moi, dans ma vie, j'ai passé ma vie avec les enfants et j'ai pas fréquenté beaucoup les adultes.
Non, parce que j'avais pas le temps. Et puis, j'avais pas tellement envie. C'est-à-dire que j'aime les enfants, puis que je suis faite pour les enfants, puis c'est tout. Les adultes, bon, ils ont des histoires qui me plaisent pas. Aïe, d'où Jésus. Ils parlent de choses qui ne m'emballent pas. Ils parlent beaucoup, beaucoup d'argent. Ils parlent de leur compte en banque, de ce qu'ils vont dépenser, de ce qu'ils vont économiser, de ce qu'ils...
Bon. Un jour, toi ?
Oui. Tu les as pris où ? Mais non, ah oui, ça fait rien.
Mais on a l'impression, comme ça... Oui. On a l'impression qu'à part l'amour des enfants, l'amour tout court n'a pas tenu une place tellement immense dans votre vie.
C'est une très grande place. Très grande. Très grande. J'étais plutôt éparpillée. Hein. Bon, quand j'ai divorcé, oh, j'étais si bien. Un jour, je suis allée voir un médecin. Quand j'étais à Bzarsouk, il y avait un docteur qui s'appelait le docteur Malice, qui s'occupait des légionnaires, quoi, qui était très sympa. Et il s'est installé après à Fès, où j'étais institutrice et j'étais donc mariée. Je suis allée le voir, je lui ai dit, moi je crois que c'est fini, que j'aime plus du tout ça. Alors je lui ai dit, examinez-moi, j'ai peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors il s'est mis à rire, il m'a dit, écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux que vous essayiez un autre partenaire. Bon, puis je me suis rendu compte effectivement que c'était... que j'en avais assez. Tu as vu le mythe ? Dieu soit loué. C'est la mythologie.
Elle est chassée avec un bâton, mais...
Avec, et elle est revenue ?
Mais elle est toujours.
Oh, zut.
Et après, elle fait un exercice pour l'attraper.
Mais maintenant, il sait qu'il ne faut pas écraser les bêtes, parce que Gandhi a dit « Tout ce qui vit est ton prochain ». Alors donc, on n'a pas le droit... Vous avez trouvé le sucre ?
Oui, c'est
bon. D'écraser les bêtes. Voilà.
Alors, le petit garçon de l'époque, Gilles, qui avait 4 ans, a 21 ans aujourd'hui. Et Yvette aurait 100 ans aujourd'hui. Voilà, c'est une émission qui date de 1992, il y a 17 ans, et que nous retrouvons. C'est le 20e anniversaire de la création de cette émission en 1989, une occasion de revenir en arrière et de retrouver ceux que nous avons rencontrés et que nous n'avons pas oubliés.
Je me suis occupée du petit. Je faisais tout, quoi. Eh ben, tranquille.
Mais ça leur posait quand même des problèmes pour s'occuper d'un petit bébé comme ça.
Aucun problème.
Non. Ah bon.
Je le langeais, je le baignais, je lui faisais le biberon, j'ai un entonnoir sensationnel. Cet entonnoir, il me sert à tout. Et puis, les doigts. Vous savez pas ce que c'est que les doigts, parce que vous y voyez. Mais les doigts, ce sont des merveilles. On peut tout reconnaître avec les doigts. Et avec l'odorat, et avec l'ouïe, et avec tout. On a plein de facultés qu'on n'exerce pas, parce qu'on y voit, comme tout le monde. Bon, ça va. C'est très beau d'y voir, mais comme j'y ai vu, je me souviens. De ce que j'ai vu, il suffit de me le décrire pour que je le vois dans ma tête. C'est pour ça, c'est bon l'imagination.
Dans une rue de Toulouse, vous ne les remarqueriez pas. Le petit garçon et la vieille dame. Lui, il s'appelle Gilles, il a 4 ans et demi, et la vieille dame, c'est Yvette que vous entendez. Peut-être qu'elle vous demandera de les aider à traverser la rue. Et alors là, vous apercevrez que la vieille dame, eh ben, elle a perdu la vue. Et elle vous racontera peut-être ce qu'elle nous raconte. C'est-à-dire qu'elle a été institutrice toute sa vie au Maroc. Elle a une passion formidable pour ce métier, pour les enfants. Et tout ça, ça s'est réduit finalement à cet enfant dont elle a la charge, son arrière-petit-fils.
qu'elle élève. Et peut-être qu'elle vous racontera sa façon de voir le monde.
Je me dis, voilà, on est sur la Terre. On vit. On fait le bien, on fait le mal. On s'efforce quand même de pencher vers ce qui est bien. Notez qu'on s'efforce, ça doit dépendre du tempérament. Puis après, quand on est mort, c'est-à-dire quand on a changé d'espace-temps, on ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas se perdre. Nos pensées, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on éprouve, l'amour qu'on a, les pensées qu'on a, toutes les poésies qu'on a étudiées, tout ce qui vous revient à l'esprit, ça ne peut pas, au moment où vous changez d'espace-temps, ça ne peut pas être perdu. Donc, ça va ailleurs. Bon, alors mettons qu'on ait une autre vie. Il est scientifiquement prouvé que lorsque vous mourrez, que vous soyez gros, maigre, noir, blanc, jaune, vieux, jeune, etc., femme, homme ou autre chose, si ça peut exister, vous perdez 21 grammes au moment où vous disparaissez.
C'est quoi,
vous mourrez.
Alors c'est le poids précis de l'âme ?
De quoi ? Moi je dis pas de l'âme. Je dis, ça peut pas être le souffle, parce qu'un type comme Charles Rigoulot qui devait avoir une poitrine comme ça, et un petit bébé qui a une petite poitrinote de rien du tout, 21 grammes, pourquoi 21 grammes ? Moi j'explique pas, je veux pas expliquer. Je veux pas d'abord parce que je peux pas expliquer. Hein ? Je reste à ma petite placotte, je ne vais pas expliquer. Mais la vie, ça ne peut pas être rien que. Ce n'est pas possible. Regardez un arbre. Il y a des arbres qui datent du temps de Sully. Pourquoi nous, on aurait une toute petite vie pour rien ? Non, une vie, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce qu'on a tellement de choses dans le cœur, dans l'esprit. On ne peut pas, ça ne peut pas disparaître comme ça. Ce n'est pas possible. Non, pourquoi je vous dis ça, au fait?
Alors, on va prendre le thé.
Allez, on prend le thé. Fois plus heureuse en y pensant, en me disant je suis heureuse. Les gens croient que le bonheur, c'est des petits trucs comme ça, de rien du tout. Le bonheur, c'est tellement merveilleux que vous pouvez l'accroître en vous le disant, en vous disant je suis heureuse. Et puis vous vous sentez absolument béat, parce que le bonheur, c'est rien, hein. C'est quelquefois une main qu'on vous tient, et le bonheur passe, et le bonheur est là, et puis ça suffit. C'est ça le bonheur pour moi. C'est pas des choses absolument extraordinaires. C'est ça, c'est des moments irremplaçables, des moments de tendresse, des moments... Bon, quand j'ai le petit dans mes bras, comme ça, quand je lui donne le bain le soir, puis je le mets dans une grande serviette sur mes genoux. Et il est là, il se sent pousse, il est contre moi. Et je me dis... C'est un moment absolument irremplaçable. Et il y a beaucoup de gens qui essuient leur petit enfant sans même penser que ça peut être un moment irremplaçable. C'est un moment de douceur, un moment où il me dit « raconte-moi une histoire » ou bien où on se raconte quelque chose. Et il est là comme ça tout blotti. C'est ça le bonheur.
Mais ça, vous le dites maintenant à l'âge que vous avez.
Mais avant aussi ? Ah oui. Avant, pour moi, le bonheur, c'était, je vous dis... Une promenade comme ça, un soir, où il faisait très beau, où il y avait plein d'étoiles et où on se sentait tellement près de ce qu'on ne sait pas. Que c'était le bonheur, mais les gens passent trop vite. Et puis ils ont d'autres objectifs. Ils sont pas simples. Et je crois que le fait d'aimer les choses toutes simples, toutes simples, comme le bon pain bien chaud, bien cuit, qui sent le vrai pain d'avant. C'est ça le bonheur. Il ne faut pas chercher loin. J'aime les mots. J'adore les mots. Quand j'étais petite, ma mère recevait un journal de femmes qui s'appelait La Femme chez elle. Et il y avait une rubrique qui était intitulée Colifichets et fanfreluches. Eh bien moi, ces deux mots pour moi, c'était la merveille. C'était colifichets et fanfreluches. C'était mignon, c'était délicieux, c'était joli. Et puis ça me suffisait pour me faire plein d'histoires avec colifichets et fanfreluches. Je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Mais c'était colifichets et fanfreluches. Ça sonne, ça fait des petites clochettes, c'est joli. Voilà, moi j'adore les mots et je pense que c'est ça ma musique. C'est un poème. Et n'importe quoi, n'importe quel événement fait venir un poème à mon esprit. Ou bien la parole de quelqu'un, ou bien n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime. Puis je vous dis, la musique, je l'aime. Sauf Wagner, bien sûr. Et puis l'opéra, je ne peux pas le supporter. Ça me ferait aboyer. Je ne sais pas, quand j'entends ces bonnes femmes qui hurlent, comme ça pour rien en plus. Alors là, puis pendant une heure pour dire la même chose, alors qu'en trois secondes, on peut dire ce qu'on pense. Oh, je me dis, c'est long. Sauf Carmen. Alors, Carmen, j'adore, moi. Vous voyez, donc, je suis tout à fait... Je suis Margot, quoi. J'aime Carmen, j'aime Manon, j'aime toutes ces petites choses délicieuses où on pleure. Je trouve ça très joli. Mais alors, les opéras comiques, vous dites... Oh là là. Et dans Molière, il y a une pièce que je n'aime pas. C'est Don Juan. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il a bâclé, Don Juan. Je ne retrouve pas Molière dans Don Juan. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout le monde en pleure de joie et de béatitude. Et Mozart l'a fait, et tout le monde s'est mis dessus. Non, moi, cette statue du commandeur, je vais vous dire. Ma mère était extrêmement orgueilleuse et elle boudait pendant un mois entier. Si, par exemple, vous aviez blessé son amour-propre, pendant un mois entier, elle ne vous parlait pas. Et chaque fois, je me disais, ça, c'est la statue du commandeur. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tellement aimé Don Juan de Molière. Parce que je voyais la statue du commandeur, toute raide, là, qui se dressait. Vous voyez, c'est une mère dans les bras de laquelle on ne pouvait pas se mettre. Jamais. Tandis que j'ai une tante ici... qui va sur gaillardement, non la pauvre, sur ses 94 ans, qui était tendre. Bon, elle était très légère. C'était une femme extrêmement légère. Hein? Bon, mais adorable. Elle avait le cœur. Vous connaissez la chanson d'Aznavour sur Marseille. Qui ont le cœur et autre chose, grand comme la porte d'Aix. Eh bien, c'était ça. Elle a un très grand cœur. Elle était joyeuse, elle était pimpante. Elle s'habillait, elle faisait vite, elle prenait un tissu, se faisait une robe à grands points, elle se la mettait, parfait. Le lendemain, elle défaisait la robe, elle la faisait d'une autre manière. Mais elle la finissait jamais. C'était toujours faufilé. C'était son style. Tandis que ma mère, c'était la noblesse faite femme. C'était, je vous dis, l'amour propre, c'était le commandeur. Eh bien, on ne peut pas aller dans les bras du commandeur. Et je crois qu'un enfant, qu'est-ce qu'il demande? C'est de mettre ses pieds dans vos mains. Et toute sa vie, il gardera ça. Il gardera cette espèce de chaleur qu'on lui a apportée.
Les gens sont absolument fabuleux. J'écoute à nouveau Yvette, là, je suis absolument éberlué par cette dame de 73 ans qui élève son arrière-petit-fils. Et j'oublie complètement, elle a une telle façon de vous parler, de vous regarder, que vous finissez complètement par oublier qu'elle ne voit rien, qu'elle a perdu la vue il y a quelques années.
Bon, je n'ai jamais terriblement vu, parce que j'ai dû avoir voyons, comment on appelle ça, une cataracte intra-utérine. Hein, d'après ce que je comprends, de cet œil, je n'y voyais pas. Quand j'ai été titularisée, bon, j'avais triché, puis après je l'ai dit au médecin. Je leur ai dit non, vous voyez, parce que j'avais fait comme ça, puis j'avais tout vu, j'avais 10 sur 10 partout. Puis je leur ai dit non, voilà, c'est pas vrai, j'y vois pas de cet œil. Et c'est passé très facilement, quoi. J'ai donc été titularisée. J'y ai vu pendant tout le temps, uniquement d'un œil, mais j'étais habituée à y voir d'un œil. Ça m'a jamais gênée. Puis après, j'y voyais assez difficilement. Et puis, en 81, bon, je ne vous ai pas dit ça parce que c'est une chose qui est très triste.
Maman, est-ce que tu as vu la flèche?
Non, mon cœur, on l'a perdu, la flèche. Eh bien, moi, j'ai perdu l'homme de ma vie, que j'aimais terriblement. C'était vraiment l'homme qui était fait pour moi. C'était la marmite et son couvercle, ce qu'on trouve rarement, que je connaissais depuis 17 ans. Eh bien, il est mort. Il est mort. D'une seconde à l'autre, mais alors vraiment d'une seconde à l'autre, comme tout le monde, mais enfin, il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps. Et ça m'a donné un tel coup que... Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Mimi? Dis-moi, tu t'es fait mal? C'était donc en 81 qu'il est mort le 9 novembre. Et j'ai été opérée au début juin 82. Ça a été très bien, il m'a opéré les deux yeux à la fois. C'était absolument parfait. J'y voyais, et puis tout d'un coup en 87...
Et voilà, tout d'un coup en 87, et là, Yvette m'a demandé d'arrêter d'enregistrer. La raison pour laquelle elle a la garde de cet enfant, elle m'a demandé de ne pas la raconter. Enfin, elle me l'a racontée à moi, mais elle a demandé est-ce que vous ne la raconte pas. Alors, voilà, on respecte tout à fait ce secret. De toute façon, ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas, sauf que Yvette nous regarde, elle.
Et j'ai des livres de poésie, j'en ai en quantité. J'ai des dictionnaires, quand je cherche un mot, je ne peux pas le retrouver.
Mais tout ça, ça existe en braille, vous pouvez apprendre le braille.
Non, je ne veux pas apprendre le braille.
Pourquoi vous voulez pas?
Parce que je ne veux pas. Parce que je veux simplement ne pas y voir. Voilà, c'est tout.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire que j'y vois pas, puis c'est tout. Mais comment vous dire? Je ne veux pas employer l'autre mot. Il ne me plaît pas. Je me débrouille dans la maison parfaitement. Dehors, bon, je suis obligée toujours d'être amenée par quelqu'un. Bien sûr, je serais contente de pouvoir amener le petit à l'école. Je l'emmène, mais je ne suis pas toute seule, parce que je ne peux absolument pas traverser une rue. C'est absolument pas possible, je ne vois même pas les voitures. Je ne vois pas je ne vois rien. Je ne vois pas ma main. Du tout, je peux la bouger, je ne vois rien bouger. Je vois uniformément blanc. Je sais pas maman, si ça... Mon chéri.
Maman, je veux que ça soit toi avec mon ami Lionel qui m'emmène à l'école.
Oui, mon chéri, je t'emmènerai à l'école et j'irai te chercher. Bon. Moi, je sais pas si j'ai mérité de pas y voir, mais enfin, j'ai vu tellement de belles choses dans ma vie. Je suis allée en Italie, j'ai vu toutes les villes d'art d'Espagne. Je connais le Louvre par cœur, je connais le Prado par cœur. Je suis allée à Florence. Je connais plein de trucs. Je connais les Botticelli par cœur. J'adore Frangelico aussi. Et puis, je le vois dans mon esprit. Je vois les boucles de cheveux du printemps de Botticelli. Je vois tout. Je le revois et je vois les couleurs. Cette boucle de Botticelli, qu'elle est jolie. Rien que pour ça. Oh, c'est merveilleux. Et l'autre, là, comment j'appelle ?
Goya.
Moi, je vois le 3, le 13 des mailles. Je vois la tête du gars avec sa chemise qui est comme ça. Vous le voyez ?
Tout à fait.
Ah, il est merveilleux, ben je le vois.
Ben moi aussi, j'ai pas la toile sous les yeux.
Et vous l'avez pas, ben ouais, voilà, ben c'est pareil. Et c'était une...
Maman, il y a de la fumée.
Il y a de la fumée, mon chéri, ben ça brûle quelque part. Quel numéro tu vas faire au téléphone, si ça brûle? Quel numéro tu vas faire si ça brûle pour appeler les pompiers?
1 et 2.
Non, lequel? Non, pas 1 et 2. Ça, c'est les renseignements. Tu penses que ça cuit? C'est cuit. 1 et 8. Voilà. Ah, c'est Madame Catastrophe, je parie.
C'est quoi?
Il tombe dans le frigo.
C'est Madame Catastrophe.
Ah, n'est-ce pas qu'il est bien, Madame Catastrophe? Et ce pauvre monsieur heureux qui a la rougeole et qui ne peut pas attraper froid. Attends, elle est merveilleuse, Madame Catastrophe.
C'est quand même une situation un peu exceptionnelle, une arrière-grand-mère.
C'est marrant, hein?
Qui a perdu la vue et qui élève son petit-fils comme
petit
ça.
Un petit troubadour. Son arrière-petit-fils.
Son arrière-petit-fils. Mm-hmm. Comment vous voient les voisins dans le quartier? Comment on vous voit? C'est quand même un peu bizarre.
Vois pas, je peux pas voir comment ils me voient. Non, ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien tous. Et ils m'aident beaucoup, hein. Très gentiment.
Oui.
Moi, j'arrive très facilement à garder des enfants, puisque j'entends, puisque je suis à l'écoute. Puisque je sens, puisque... Bon, c'est bien beau d'y voir, mais quand on y voit, on ne fait pas attention. Tandis que quand on n'y voit pas, on fait attention. Alors, c'est tout le naturel pour moi. Quand je lui frange, je fais cuire, c'est embêtant, parce qu'il faut de temps en temps, qu'est-ce que je me brûle. Heureusement, j'ai une cuisinière électrique. J'aurais jamais pris une cuisinière à gaz, parce que j'aurais eu très peur.
Et quand vous vous baladez dans la ville, qu'est-ce qui a changé? Les odeurs, comment ça se passe?
Moi, je me repère beaucoup aux odeurs. Je sens les magasins de chaussures. Naturellement, les briocheries, ça, c'est facile. Et je peux me retrouver... on me dit, il faut aller à tel endroit. Je dis, vous prenez cette rue, vous allez par là. Non, il faut tourner ici, etc. Je n'ai pas perdu le sens de l'orientation. Et même... le sens de la distance.
Ah oui.
J'ai la distance dans les jambes.
Qu'est-ce que vous avez, pour l'instant, au point où vous en êtes de votre vie?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris de plus fort, de plus évident, de plus sûr?
J'ai appris.
De quoi vous êtes sûr?
Un enfant, c'est merveilleux. Un enfant qu'on forme, un enfant qui évolue, un enfant qui part d'un gazouillement pour en arriver là, c'est... c'est un chef-d'œuvre.
Mais qu'est-ce qui se passera si votre petit-fils
s'en va? Je ne
pense pas.
J'y pense jamais.
Ah voilà.
Je ne pense pas. Non. Je suis dans le présent et je ne fais jamais de plan sur la comète. Mm-hmm. C'est Mektoub.
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 Aïe, nostalgie. Effectivement, c'était l'indicatif de Macha Béranger pour cette émission de Là-bas, si j'y suis, qui date, je le disais, de 1992. Eh bien, je me suis trompé. C'était en fait 91, 19 février 1991. Qu'est devenu Yvette? Qu'est devenu Gilles? Si vous avez des nouvelles, si vous savez quelque chose sur eux, eh bien, qu'ils nous préviennent, qu'ils se manifestent. Ça nous fera grand plaisir. Sur le site labas.org, retrouvez un dossier avec toutes vos réactions suite à notre émission « Ce que la burqa voile », ainsi que des versions intégrales des entretiens avec Alain Badiou et avec Frédéric Lordon. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur labas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Koye Nguyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.